Vous avez su, frère très cher, par la miséricorde de Dieu qui nous a été annoncée, que nous avons été comblés par la nativité de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et ainsi de même, nous vous annonçons la joie qui nous sera procurée par la résurrection de notre même Sauveur. Le 14 février sera le jour des cendres et le début de la très sainte quarantaine. Le 31 mars sera la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ que vous célébrerez avec joie. Le 9 mai sera l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 19 du même mois sera la fête de la Pentecôte. Le 2 juin sera la fête du très saint corps du Christ. Le 1er décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est l'honneur et la gloire, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Adorer est l'objectif du parcours des mages. Adorer Dieu est aussi le but de notre vie. Et rien n'est plus essentiel. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, est le premier de tous les commandements. Sans l'adoration, notre vie n'a plus aucun sens, n'a plus aucun but. Elle ne vaut plus rien. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Les Juifs n'ont pas su reconnaître Dieu et l'adorer lorsqu'il les a visités. Et Jésus énoncera la conséquence : le royaume de Dieu vous sera retiré. À l'inverse, grande, très grande fut la joie des mages lorsqu'ils purent contempler et adorer Jésus. Cette joie, celle de la rencontre avec Jésus, était aussi celle de la joie de la béatitude future qui les attendait. En nous faisant entendre cet évangile ce matin, Dieu vient nous demander « M'adores-tu vraiment ?» Il y a deux étapes dans le parcours des mages. Jérusalem et Bethléem. Chacune nous permet d'enlever de notre vie la fausse adoration pour mieux entrer dans l'adoration véritable. L'étape à Jérusalem nous révèle que la véritable adoration change toute notre vie. L'attitude des Juifs de Jérusalem étonne. Ils connaissent la Bible à fond. Ils sont tombés dans la potion biblique en étant tout petits. Ils sont capables de citer les prophéties sur le lieu de la naissance du Messie. À Bethléem, en Judée, répondent-ils. Ils le savent, mais ils restent à Jérusalem. Ils sont inertes, indifférents. Ils ont été au catéchisme, cela ne change rien en eux. Ils ont une connaissance purement intellectuelle, mais pas une foi vivante. Ils ont une culture extérieure, mais pas le culte intérieur. Ils n'ont pas fait le pèlerinage de la tête au cœur. Ils sont peut-être même allés au patronage juif. Ils ont joué selon les règles bibliques. Ils ont entendu les causeries de Rabbi Xavier ou de Rabbi Henri. Mais cela n'a pas franchi la porte de leur cœur. Jésus les traitera plus tard d'hypocrites en citant le prophète Isaïe. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et l'amour qu'il a pour moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Bref, ils plient les genoux, mais pas leur cœur. Leurs lèvres chantent des chants à Dieu, mais il n'y a aucune louange en eux. Et leur vie ne change pas vraiment. Il y a des habitudes culturelles, mais pas de changement en profondeur. À l'école, ils sont comme les autres, voleurs et menteurs. À la maison, désobéissants et pénibles. Leur adoration n'est pas véritable parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. L'adoration des mages, elle, est authentique. Pour adorer, ils sont venus de loin. Pour faire ce voyage, ils ont renoncé à leur travail, à être avec leur famille, à l'argent, puisqu'ils ont dépensé pour venir, au confort de leur maison, pour dormir sous la tente. Ils montrent par là qu'ils ont mis le plan de Dieu avant leur plan, dans leur vie. Ils ont reconnu que Jésus est roi, qu'il est le roi de leur vie, de leur emploi du temps, qu'il passe en premier, avant leur confort, avant leur argent, leur travail, leur famille. Leur adoration ne repose pas non plus sur une coutume purement culturelle, purement extérieure. Ils ne sont pas juifs. En plus, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, alors qu'ils devraient s'attendre à voir toute la foule en liesse à cause de la naissance de Jésus, ils constatent une totale indifférence. Et pourtant, malgré cette inertie générale, malgré les regards fixés sur eux, ils continuent. L'adoration, notre adoration, ne doit pas reposer sur une coutume purement extérieure, purement humaine, sur ce que les autres peuvent penser de moi, mais sur le commandement de Dieu. C'est une démarche personnelle, intérieure, fondée sur ma rencontre avec lui. Et cela change toute ma vie. Comme le long voyage des mages, toute ma vie est polarisée par cela, organisée pour cela. Le mensonge, la médisance et la grossièreté quittent mes lèvres pour laisser place à la vérité, à l'amabilité, à la douceur, à la louange. Mes mains délaissent le vol et la violence pour le service et la douceur. La transformation de ma vie marque l'authenticité de ma rencontre avec Dieu et de mon adoration. Adorer doit changer ma vie. C'est ce que me dit l'étape à Jérusalem. L'étape à Bethléem, elle, nous révèle que la véritable adoration passe désormais par Jésus. Il y a moins de 10 kilomètres entre Jérusalem et Bethléem, et les Juifs ne les parcourent même pas. Ils continuent à prier au temple, à aller à l'école juive, et ils ne vont pas rencontrer Dieu là où Dieu se rend présent et a choisi de venir. À l'inverse, leur science a permis aux mages de découvrir qu'il existe un Dieu unique, maître des étoiles, créateur du monde. Et pourtant, ils auraient pu se dire, nous le connaissons maintenant, nous pouvons l'adorer là où nous sommes, puisqu'il est partout, puisqu'il est en moi. Et pourtant, ils décident d'aller à Bethléem, parce que Dieu y est présent d'une manière toute nouvelle, plus incroyable encore, et veut y être adoré. La promesse, nous dit saint Paul, est en Jésus-Christ. Arrivés à Bethléem, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils reconnaissent qu'il n'y a pas d'autre moyen pour adorer Dieu désormais qu'en Jésus-Christ. Ils abandonnent leur ancienne croyance et affirment qu'il n'y a plus qu'une seule voie pour connaître Dieu et aller à lui, Jésus. Et les apôtres plus tard le diront, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel et sur la terre qui nous est donné pour être sauvés que celui de Jésus-Christ. Les mages vont à Bethléem. Et ils ouvrent leur coffret. Ils prennent sur leurs biens pour reconnaître que Dieu est le maître de leurs biens. Que tout ce qui est à eux est en réalité à lui. La véritable adoration nous fait prendre sur nos biens pour les offrir à Dieu. Pour rappeler que nous les tenons de lui. Que Dieu en est le véritable propriétaire et que nous en sommes juste les intendants. Nous lui offrons notre temps, notre confort, notre argent, notre travail, notre vie de famille et au final, toute notre vie. Parce que c'est à cela que tend l'adoration véritable. Voici ce que dit saint Paul. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Les Juifs n'ont pas su reconnaître Dieu lorsqu'il les a visités. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Il y a un moment particulier où Dieu nous visite, nous aussi. C'est le dimanche, à la messe. Et Jésus se rend présent, sur l'autel. Ceci est mon corps. C'est le même Jésus, le même corps que les mages ont adoré à Bethléem, qui va être là, présent sur l'autel dans quelques instants, lorsque le prêtre dira « Ceci est mon corps ». Et Dieu vient, il vient. Sommes-nous fidèles à ce nouveau Bethléem ? Comment dire que je crois en Dieu, que je l'aime plus que tout alors que je néglige de l'adorer lorsqu'il vient ? Il sera présent à moins de 10 kilomètres de chez moi. Certains disent, toutes les religions mènent à Dieu. Je peux croire en Dieu, l'adorer à ma façon, et je n'ai pas besoin de pratiquer. Je n'ai pas besoin de venir à la messe le dimanche. Je prie quand je veux et comme je veux. Ceux-là font comme les Juifs, malheureusement. Ils ne se rendent pas à Bethléem pour y trouver Jésus. Car si toutes les religions se valent, pourquoi Jésus a-t-il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et si je peux croire en Dieu comme je veux sans aller à la messe le dimanche, quoi a-t-il commandé ? Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Aller à la messe exige de prendre parfois sur mes biens, sur mon temps, sur mes loisirs, sur mon confort, sur mon travail et ma vie de famille. Mais justement, en faisant cela, je dis à Dieu que je le préfère plus que tout, à mon travail, à mon argent, à tout. Au lieu de lui dire « tu passes après ça », je lui dis « tu comptes pour moi plus que tout ». Je lui dis vraiment que je l'adore, que je l'aime plus que tout. L'amour se prouve par des actes. Pour prouver mon amour, Dieu me demande une fois par semaine, le premier jour de la semaine, de venir l'adorer en son église, là où il se rend présent. Il me donne ainsi de pouvoir tout préparer, mes manques d'adoration durant la semaine. Adorer Dieu signifie organiser ma vie pour en fonction de lui. Toute ma vie est polarisée par lui. Et cela commence par le premier jour de la semaine. Certains disent « Ok, il faut aller à la messe, mais c'est pas grave si c'est pas tous les dimanches, si je suis pas complètement attentif pendant la messe. » Cela n'ouvre pas leur coffret, leur loisir, leur travail, leur famille à Jésus. Ils ne l'offrent pas en présent. Ils s'adorent eux-mêmes alors que leur coffret reste fermé pour Dieu. En vérité, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être donné à une autre nation. Chers frères et sœurs, lorsque nous venons à la messe, il nous faut laisser toute notre vie, toutes nos préoccupations, pour l'offrir à Dieu, vraiment. Elle doit être donnée là, à ce moment-là. Toute notre semaine doit être offerte à ce moment-là, du dimanche matin. La vraie adoration change ma vie, et cela commence par la manière dont je vis le dimanche. Jésus est venu à Palmonial pour se plaindre de comportements qui n'étaient pas la vraie adoration. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les mépris et les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Il demandait des âmes réparatrices de ses indifférences et de ses adorations sacrilèges. J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. Et je ne trouve personne qui s'efforce, selon mon désir, pour me désaltérer, en rendant quelques retours à mon amour. Jésus nous rappelle à une vraie adoration, à de vraies communions, faites en état de grâce et fervente, réparatrice. Chers frères et sœurs, le dimanche doit être une véritable source de joie pour nous, une très grande joie, parce que c'est déjà notre béatitude qui commence à ce moment-là. L'adoration véritable est source d'une joie immense. Dès ici-bas, c'est dès ici-bas que les mages éprouvent leur joie. Mais combien sera-t-elle plus grande au ciel ? Cette véritable adoration, elle naît d'une rencontre intime, profonde, avec Jésus. Et c'est une grâce qu'il faut demander. Et particulièrement à Marie. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. C'est Marie qui introduit les mages auprès de Jésus et qui les mène à la véritable adoration. C'est auprès d'elle qu'il faut demander cette grâce. Alors le samedi soir, pour nous préparer à l'adoration véritable du dimanche, pourquoi ne pas réciter, ne pas prier avec cœur, en famille, une dizaine de chapelets pour demander à Marie de nous donner la véritable adoration dans nos cœurs. Amen.